Bonsoir à tous, nous sommes mardi, il est 21h et c'est
Neur,
l'heure du
du
Dojo
Dojo
Bar.
Bar, Dojo Bâtard.
Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir mes
Bonsoir,
Luz.
Bonsoir.
Salut, mortel.
Et bonsoir à notre chef bien-aimé Cyrard qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre comme invité pour cette émission.
Bonsoir messieurs. Alors voilà. Je commence par un rituel, mais j'innove aujourd'hui, donc j'ai amené le cubi de Merlot.
Oh là. Une bonne grosse.
À la vôtre, je sais pas si dans le micro ça me...
Ah très bien, santé.
Non mais c'est... Voilà. Ok, donc on a fait santé avec le micro. D'accord. C'est que je constate que c'est quand même de pire en pire. Je pense qu'au prochain coup, on amènera tous notre propre bouteille de Niol.
Ouais.
Bon, ça s'annonce bien, donc ça va être vachement pratique. Donc, pour... pour l'émission de ce soir, un petit peu de sérieux, je vais essayer quand même de faire un sommaire. Nous allons... boire un grand coup. Ouais, alors je vous invite tous à lever le coude en ce merveilleux dojo bar. Et nous allons donc commencer par parler de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ce sera la première partie de l'émission. Puis nous ferons une petite rétrospective sur Rareware, puisque nous avons Cyrard. Hein, cache pas que son pseudonyme. Ça vient d'où déjà? C'est vrai,
bah, c'est bon, ça.
Ça. Voilà, ça doit être ça, ouais, c'est un truc comme ça.
C'est ça, je l'ai changé pendant un temps en Cyrard Rétro. Non,
ah
bah
voilà.
Rétro, je sais plus.
Cyrard Rétro, je crois, Cyrard Rétro.
Oh, Cyrard Rétro. Trop bourré.
Mais parce que Rétro, quand même, ils enchaînent bien.
Bah, là, on va parler quand même de deux grands studios, Rétro, enfin, d'un grand studio qui est Rétro Studio et d'un ancien grand studio qui est Rareware.
Qui est plus rien.
Qui aujourd'hui est plus grand chose, malheureusement. Oui. Et on va commencer tout de suite avec le tour de table de l'actu. Tour de table d'actu qui va être très très court, parce que c'est vrai que l'actualité a été particulièrement laconique ces dernières semaines.
Ouais,
t'as vu que j'ai employé un mot de plus de 3 syllabes.
Lequel ?
Laconique.
Et y a
en plus, il y a con et Yannick dedans.
Il n'y a pas plus de 3, il y en a 3.
Ah merde !
Ah,
j'ai mal
bah
calculé
oui.
Du coup.
Bon,
bah,
non,
tant pis.
On dit lacunaire là en plus. On dit pas laconique, on dit lacunaire.
Mais c'est pareil.
Enculé.
J'aime bien que t'allais faire un truc comme ça. Alors, je vais vous poser une question très simple. Est-ce que vous vous êtes
Rouge,
déjà demandé...
Oui.
Ah oui, ok.
Dites-nous deux à bon.
Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi correspondaient les petits triangles de couleurs qu'il y a sur les pochettes de Wii, de GameCube, et qu'on retrouve même sur les modes...
C'est la région, je crois.
N64 et Super NES. Alors non, c'est pas la région.
Ah, merde. Moi, figure-toi, je me posais la question quand j'étais petit. J'essayais de trouver un truc logique, j'ai jamais trouvé. Et... je l'ai lu quelque part vers 2005, mais j'ai complètement oublié.
Bah, moi aussi.
Bah, c'est un bon rafraîchissement.
Mais,
parce que moi,
mais
je
il
me
semblait
suis...
que c'était la région.
Je me suis posé la question, c'est j'ai regardé ma ludothèque comme ça, et à un moment, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a tel jeu, il a un petit triangle vert, et puis il y a tel jeu, il a un petit triangle violet, tel jeu, il a un petit triangle marron, tel jeu, il a un petit triangle rouge. En fait, je me suis rendu compte que j'en avais plein.
Enfants.
Pardon ?
C'est un puzzle éducatif pour les enfants.
C'est exactement ça, ouais. Ça fait plein de trucs comme ça.
Ouais.
Et j'ai regardé mes jeux GameCube, j'ai regardé mes jeux N64, j'ai ressorti mes manuels de Super NES et j'ai vu qu'il y avait le même code couleur. Et en fait, c'est spécifique à la région pâle, donc c'est seulement pour l'Europe, où la couleur correspond en réalité au pays auquel est destiné le packaging du jeu. C'est-à-dire le jeu en lui-même en général c'est toujours le même, à quelques exceptions près. C'est-à-dire quand t'étais sur Super NES par exemple, tu pouvais éventuellement avoir des jeux différents en fonction des pays, parce que t'avais pas forcément toutes les langues dans la même cartouche. À partir de la N64, tu as quasiment tous les pays avaient exactement les mêmes cartouches. Donc enfin je veux dire, la zone pâle c'était la même cartouche pour tout le monde, mais le packaging était différent. C'est-à-dire le packaging allemand, il était évidemment écrit en allemand et t'avais un mode d'emploi écrit en allemand. Et puis nous, on avait en France, on a soit des jeux qui sont spécifiquement français, c'est-à-dire le packaging il est... complètement en français, le mode d'emploi n'est que en français, soit on a les packaging dits Benelux, donc ça c'est les violets je crois, qui sont en fait en hollandais et en français, comme ça ils peuvent être vendus en France, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
Des pays bizarres.
Voilà, oui. Des pays bizarres. Et en fait il y a 49 et quelques codes couleurs qui sont utilisés par Nintendo
oh là là.
en fonction des groupements. Donc le, pour ceux qui se posent la question, le vert c'est l'Angleterre. Donc quand t'as un jeu avec un petit triangle vert, en fait c'est un jeu en version anglaise. Donc le jeu en lui-même peut être traduit dans n'importe quelle langue, mais le mode d'emploi est en anglais. Et la pochette, enfin tout le packaging est en anglais. Je crois que le rouge c'est spécifiquement la France. Il y a un violet un petit peu foncé qui est France et Belgique. Il y a un violet clair qui est Benelux et France.
Ils ont vraiment 49 couleurs alors du coup.
Il y a vraiment 49 couleurs. Je crois que l'Italie c'est bleu, l'Espagne c'est alors l'Espagne si je me rappelle bien c'est un j'en ai un de jeu espagnol en plus c'est assez gouffre. Je sais pas où j'ai chopé ça. Je me souviens plus de la couleur. C'est un marron foncé, un truc comme ça. Le Portugal, c'est encore un autre truc. Enfin, c'est assez dément, en fait. Il y a, et puis alors, c'est pareil, t'as des pays couplés. C'est-à-dire, t'as une couleur Portugal, une couleur Espagne, et t'as une couleur quand c'est Espagne et Portugal.
Ah oui.
Ouais, non, c'est complètement dingue. Donc voilà. Donc, si vous regardez votre ludothèque, vous pouvez identifier, en fait, rien qu'au code couleur, à quel pays était destiné le packaging que vous avez.
C'est assez ouf. Je vais prendre une poignée de jeux pour regarder d'ailleurs. Ah, j'ai tous des jeux violets, moi, comme un connard de belge.
Bah voilà, toi t'as que des jeux. Alors, violet et rose, soit t'as des jeux France-Belgique, soit t'as des jeux Benelux-France en fait.
Ouais, j'ai aussi. Tiens, j'ai un gris. Pourquoi j'ai un gris?
Alors, le gris, je sais pas à quoi ça correspond, j'ai jamais vu.
C'est pour Soul Bubble sur DS. Ah non, il est pas gris, c'est le jeu à côté. regardez, en direct.
Explorons la ludothèque.
Soul Bubble sur DLC est gris. Et alors, au verso, il y a les textes de présentation en français, allemand et néerlandais.
Eh ben, tu dois avoir une version. Alors, ça doit correspondre à Benelux plus Allemagne.
Ouais, c'est pas trop c'est quoi ça. C'est peut-être pour la. Non, c'est pas pour la Suisse, sinon il y aurait l'italien avec.
Non, ça dépend. Ça peut être. Alors, il y a des zones bizarres. Hein.
Ouais.
Chez Nintendo, ils font des trucs très très curieux.
Du coup, on peut arriver très vite. À mon avis, on est fait à 49 couleurs.
Voilà, bah oui, justement, t'as pas 49 pays dans la zone pâle. Mais par contre, tu peux le faire très vite. Ce que je ne sais pas, en revanche.
Ça s'applique au monde entier, en fait.
Alors, je ne sais pas, justement, je suis pas sûr que ça s'applique au monde entier pour une raison simple, c'est que les jeux Jap n'ont pas cette spécification-là.
Ouais.
Et pour moi, les jeux américains, nord-américains, donc Canada ou États-Unis, n'ont pas non plus la différence.
Ah oui.
Par contre, ce que je ne sais pas, c'est si l'Australie aurait la différence. Je vous rappelle que l'Australie est en zone pâle, et ils ont les mêmes distributions de jeux que nous, ou à peu près. Donc si ça se trouve, les jeux australiens ont une couleur aussi spécifique.
Ouais, ça pourrait se tenir. Là, j'ai un jeu uniquement avec une boîte en néerlandais, le Paper Mario du GameCube, et là, c'est bleu.
Voilà, bah, bleu, ça doit être juste la Hollande, du coup.
Ouais. Ah, ben ça alors.
Je trouve ça assez dément, et c'est vrai que quand t'apprends ce système de classification, il y a des trucs assez, assez curieux. Donc, moi j'ai regardé, j'avais deux jeux verts en fait. J'ai un jeu gris, je crois. J'ai un jeu marron, donc ça c'est l'Espagne. Enfin voilà, tu récupères des trucs un peu bizarres comme ça. Donc, les gens qui achètent beaucoup sur les sites anglais pour profiter des prix.
Ça ramasse avec pas mal de.
Voilà, ils ont pas mal de pochettes avec des triangles verts.
Alors concrètement, Nintendo, est-ce que eux ont un intérêt quelconque à faire ça?
Alors, je pense.
Ils se gardent des boîtes, je sais pas moi. Tiens!
Ah bah merde, on a perdu un truc, ah bah ça doit être pour l'Allemagne.
Et là, on est en Italie!
Je pense que c'est juste une question de. Je pense que c'est juste une question de repérage pour les gens qui font le packaging et la promotion en fait. Tout bêtement.
Ah oui.
Je pense pas qu'il y ait plus d'explications que ça. Parce qu'en fait, la zone pâle, c'est la seule zone où ils ont besoin de traduire dans énormément de langues différentes, mais où tu peux pas toutes les faire tenir sur une seule boîte.
Oui.
Je pense que quand Ubisoft te dit « Mon jeu, je le sors en Allemagne, au Portugal, en France, en Italie, en machin », ils font, si à l'arrière de la pochette, ils doivent mettre beaucoup de texte, ils sont obligés de faire une pochette italienne, une pochette française, et ainsi de suite. Et donc, le code couleur, ça permet peut-être à l'imprimeur, par exemple, de se repérer, ou le mec qui emballe en Allemagne, vu que tout est assemblé en Allemagne, que de se repérer, et ainsi de suite. Quoi. Je pense que c'est aussi bête que ça.
Okay, c'est peut-être une question de, je sais pas, de garantie ou de truc, ou si tu rapportes un jeu qui est pas de la bonne couleur, on ne te le prend pas dans un magasin.
Il y a moyen que ce soit ça aussi, oui, si t'envoies un jeu qui a été acheté en Angleterre à Nintendo France pour faire jouer la garantie de 90 jours habituelle, les mecs te disent non, vous l'avez acheté en Angleterre, faut l'envoyer à Nintendo UK. C'est possible. C'est possible aussi. tout est possible en fait comme explication. Le fait de les différencier aussi clairement, ça permet effectivement d'imaginer plein de choses. Enfin voilà, je trouvais ça intéressant. Je vous invite à tous reparcourir vos ludothèques pour voir un petit peu ce que vous avez comme origine. Ça permet de voyager. C'est agréable.
Ouais. C'est super.
Cyrard, tu voulais nous faire un petit truc sur Twitch, si je dis pas de bêtises. Nous te laissons la parole.
Sur Twitch Play Pokémon, alors non, j'ai pas mal tweeté sur le fil du dojo pendant un temps. En gros, c'est surtout le journal du gamer qui en parlait, donc je mettais leurs articles sur notre Twitter pour que tout le monde en profite. C'est un truc assez extraordinaire. C'est en gros sur un site internet de streaming de jeux, ils ont mis une sorte de hack de Pokémon, donc la première version. Et en gros, le principe, c'est que toutes les personnes qui sont sur ce site-là ont la possibilité de taper une commande dans un chat, et donc de taper haut, bas, gauche, droite, A, B, start ou select. Et donc, si tu tapes haut, et ben le Sacha monte d'un carré, d'une
un
tuile.
Pixel. Un pixel.
Non, pas un pixel, une tuile.
Une tuile, carrément.
Il me semble. Exactement. Et donc si tu fais bas, et pareil. Et donc le principe, c'est que c'est un jeu collaboratif. Sauf que en fait, ils ont vite été 30 000, 40 000, 50 000. Et donc
ça a vite été l'anarchie la plus complète en réalité.
Ça a été l'anarchie, c'est un mot clé. Tu vas voir que c'est devenu après un beau bordel. Et donc bah voilà, il y a 30 000 personnes qui tapaient A, qui tapaient gauche, qui tapaient droite. Donc les premiers.
D'autant plus que précision, je crois qu'il y avait un lag qui pouvait varier de 20 à 40 secondes entre le moment où tu tapais A par exemple et le moment où effectivement la ROM piquait A dans le jeu. Quoi.
Alors, je pense que tu parles d'autre chose, mais je vais y venir. Donc en fait, effectivement, il y a 30 000 personnes qui tapent A, qui tapent gauche, etc. Et donc, à la base, tout est pris en compte. Donc s'il y a 30 000 personnes qui tapent gauche, et ben, Sacha, il va 30 000 à gauche. Et donc, effectivement, c'est devenu un bordel.
J'imagine difficilement à quel point ça doit être complètement injouable en réalité.
Bah, c'est complètement jouable, ouais.
C'est un peu le principe, je suppose. Mais...
Et donc, y a des trucs que tu imagines, c'est bon, sur un village par exemple, il faut contourner des murs et de temps en temps il y a des espèces de petites falaises, tu sais, des petits rebords où en fait quand tu le descends, tu peux pas revenir en arrière. Et donc, par exemple, il faut monter de 5 écrans, aller à gauche d'un écran, redescendre de 3 écrans, etc.
Il faut refier dessus quand on est au bord du même précipice, parce que sinon on est parti pour refaire la même boucle, c'est ça?
C'est exactement ça. Et donc le truc, c'est que sur les 30 000, 40 000, 50 000 personnes qui jouent en même temps, il suffit de quelques connards pour descendre de la falaise et d'être obligé de tout recommencer. Et donc finalement, un truc comme ça peut te prendre une journée. T'es obligé de faire un truc comme ça. Donc, et vraiment, il y a eu un troll massif de gens. Alors, bon, il y en a qui disaient que c'était vraiment pour faire chier, et puis il y en a qui disaient que, en fait, l'expérience leur plaisait tellement qu'ils voulaient que ça dure plus longtemps. Et donc, finalement, un truc qu'on aurait pu passer en quelques minutes. Finalement, en fait, il suffisait sur certains passages de Pokémon, t'as une sorte de grand couloir horizontal qui fait une seule tuile, et juste en dessous, t'as une falaise qui longe ce couloir. Et donc, en fait, il faut que tout le monde appuie sur droite ou gauche ensemble, et le premier qui fait bas, on tombe. Et donc, t'es obligé de tout recommencer. Enfin, ça devient un bordel. Et donc, suite à ça, ils ont inventé l'éditeur de cet émulateur-là. Ils ont inventé un système de démocratie, à l'inverse de ce système-là qui est de l'anarchie. Et donc, vu que ça n'a pas plu, ils sont vite revenus en arrière. Et donc, ils ont créé des mots-clés qui est anarchie ou démocratie. Et donc, en fonction de la majorité des gens, soit ça passe sur un... Donc ça reste sur l'ancien système qui est l'anarchie, soit ça passe sur un système de démocratie où toutes les 20 secondes, on prend
l'input le plus donné.
Le majoritaire.
Exactement. Voilà, le majoritaire, d'accord. Même à très peu, je suppose. C'est le majoritaire au sens, voilà, 50% enfin, plus une commande, quoi.
Voilà, sur 50 000 ou sur 80 000 utilisateurs, de toute façon, il faut une majorité. Ça doit pas être 50% vu qu'il y a d'autres, il y a pas que deux votes, il y a au bas, gauche, droite, etc. Donc, déjà, il y a une guerre entre ceux qui sont pour l'anarchie, parce qu'ils préfèrent la version originale de l'émulateur. Et il y a ceux qui sont pour la démocratie parce que c'est plus facile d'avancer dans le jeu. Parce que t'imagines par exemple qu'à un moment tu nommes les Pokémon.
Oh putain, donc ça doit être le gros bordel.
Donc t'as un clavier où il faut que tu fasses au bas gauche droite pour sélectionner les lettres et puis que t'appuies sur A pour valider
si t'appuies
le nom.
Sur B ça efface. Donc il suffit qu'il y ait des mecs qui arrêtent pas d'appuyer sur B et ça doit devenir l'enfer quoi.
Donc t'en as un qui s'appelle ABBBBBK et puis un qui s'appelle GLVWNNOOO. Enfin c'est des trucs un peu fous.
Oh mon dieu.
Et donc,
c'est dingue ce truc.
Ouais, c'est assez sympa. Et bon, je passe parce que ça a duré des jours et des jours hein, ce jeu. Donc je vous passe les trucs. Mais il y a des, c'est assez marrant. Et donc il y a des fois où par exemple il fallait utiliser une capsule. Et donc pour utiliser une capsule, il y a une combinaison. Je saurais plus te dire, mais en gros, faut faire start deux fois bas et start. Et donc pour faire ça, en vrai, c'est mort. C'est pas possible. Donc déjà ils ont créé un code où tu pouvais combiner des touches, donc tu pouvais par exemple faire A suivi de 2, et donc ça c'est que tu appuies deux fois sur A, alors tu peux ensuite faire bas A2 bas, et, non à l'inverse plutôt, start bas 2 start, et donc ça fait cette combinaison là. Et donc, il y a eu une mobilisation massive sur des forums ou chats parallèles où, en fait, il y a 60 000 personnes ensemble qui, donc, ont attendu un passage en démocratie pour lancer ça en même temps. Et donc, il y a 60 000 personnes qui ont lancé cette commande en même temps. Et donc, elle est devenue majoritaire et ils ont pu utiliser cette capsule. Et donc,
c'est juste du délire, ce truc.
Non, mais ils ont fait la révolution sur un chat parallèle, quoi.
C'est exactement ça. Et donc c'est un truc complètement fou. Et donc après il y a eu des organisations dingues. Alors par exemple, ils montraient la map et ils disaient bah quand on est là, tout le monde fait gauche. Quand on est là, tout le monde fait bas. Quand on est là, tout le monde fait deux fois gauche, etc. Et quand on est là, vous faites au plus droite. Et parce qu'en fait, effectivement, dès qu'il y avait un couloir qui longeait une falaise, il fallait que vraiment tout le monde aille dans le même sens. Sinon c'était mort. C'était vraiment la merde. Et donc il y a une organisation de dingue et c'est assez marrant. Moi je vous invite à chercher juste Twitch sur Journal du Gamer et tous les jours ils faisaient un résumé
de ce qui s'était passé.
Ouais. Et donc finalement le jeu c'est assez bien déroulé. Je sais pas s'ils ont terminé là. Ça fait un paquet. Enfin, ça fait quelques jours que j'ai pas suivi.
Il me semble qu'ils l'ont fini.
Et donc sur la fin, donc il y a la fameuse ligue qui est quand même assez difficile quand tu joues tout seul, parce que bon, faut lancer les bonnes attaques, les bonnes défenses en bon moment. Donc quand t'es en anarchie, c'est un peu le bordel. Et donc malgré tout, vu qu'en fait ils ont fait des millions de fois des allers-retours à cause des falaises, ils ont rencontré énormément de Pokémon, donc ils ont fait beaucoup de leveling en fait. Donc dans l'un dans l'autre, ça les a aidés. Donc ils avaient des Pokémon assez forts. Et donc sur la ligue, quand tu perds, tu reviens quand même assez loin dans le jeu. Donc à chaque fois, il fallait revenir. Donc si tu me dis qu'ils ont gagné,
il me semble avoir lu qu'ils avaient fini, Pokémon aussi, et qu'il y a des mecs qui s'étaient attaqués au défi de tiens les gars, si on collecte les 150 Pokémon pour le LOL. À mon avis, c'est pas sorti les mecs parce que là.
Et alors en conclusion, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a eu des choses. Et alors une petite anecdote aussi, il y a Smooth McGroove qui sur son il a fait une musique de Pokémon il y a pas longtemps et sur l'écran du milieu là qui est en fait
une émulation,
il a utilisé Twitch.
Excellent.
Et juste pour conclure, le truc, ça a tellement fait du buzz que il y a un. Alors je sais pas si c'est sur le site Twitch aussi. Il y a ils ont lancé un truc avec le chat de Twitch Plays Pokémon et ils l'ont foutu dans un Tetris pour voir ce que ça donnait.
Ah oui, ça s'appelait même Twitch
Play Pokémon, Tetris. C'est ça. Et donc, c'était les commandes de Pokémon qui jouaient à Tetris, collaborative. Donc, ça faisait n'importe quoi, mais disons que l'initiative était marrante. Oui. Ça faisait pas beaucoup plus n'importe quoi dans Tetris que dans Pokémon.
Non, en fait, ça faisait pas trop n'importe quoi parce qu'ils avaient hacké la ROM de Tetris pour que ce soit pas trop le bordel et qu'il y ait certaines lignes qui remontent quand ça partait vraiment en vrille, je crois.
Ah bon.
Quand tu lisais le descriptif, donc il parlait évidemment du lag de 20 à 40 secondes parce que, forcément, les commandes passaient d'abord par Pokémon avant d'arriver sur Tetris. Et en plus de ça, dans certaines situations, il y avait des lignes qui remontaient, en fait. Donc, tu te retrouvais dans des trucs, évidemment, totalement improbables, parce que, bon, déjà, Twitch, PS Pokémon, c'est n'importe quoi, mais alors, forcément, si tu joues à Tetris avec les commandes de Pokémon, ça va pas aller. Et donc, ils avaient un peu adapté la chipote et la ROM pour que ça tienne un petit peu moins mal.
Donc, voilà. Je trouve l'initiative mais vraiment fantastique, et j'y ai pas participé, parce que je pense qu'il faut du temps, et puis il faut sans doute le faire depuis le début, mais... Le truc est génial, et jouer à... Je crois qu'il y avait 1 million d'utilisateurs en tout sur le jeu. Et jouer en même temps à un jeu aussi complexe que Pokémon, je trouve ça...
Oui. Ah, quand la même chose sur Mario 64.
Je sais pas si c'est faisable sur un jeu de ce type-là. Ça pourrait être intéressant de se poser la question, sur quel jeu est-ce qu'on peut appliquer ça, parce que c'est un RPG quand même, Pokémon.
Ouais, c'est
vrai
qu'il y a
un jeu qui demande des réflexes ou qui demande c'est tout de suite mort, quoi. Alors qu'un jeu un petit peu.
Un jeu en 3D, c'est chaud déjà.
Un jeu en 3D, c'est peut-être un peu plus chaud en plus,
parce que si tu fasses 32 degrés.
Si le contrôle de la caméra il est laissé à tout le monde.
Il
juste être la gerbe au bout de 5 secondes, quoi.
Sur un devant, sur un salarié.
Non, il faut absolument de toute façon que ce soit sur une croix, pas sur un stick.
Oui.
Il faut limiter. La Game Boy, c'est un bon candidat parce que t'as que 2 boutons. La NES pourrait être un bon candidat aussi parce que t'as peu finalement d'inputs possibles.
Ouais.
La GBA, déjà, t'as 2 inputs supplémentaires qui sont LR. Mais c'est jouable, je veux dire, à partir du moment où. La Super NES, ça me paraît plus compliqué, à moins que tu fasses un truc genre. Mais de toute façon, faut forcément un RPG dans lequel tu peux pas mourir, ou disons difficilement mourir, ou qu'il n'y a pas vraiment de game over, parce que sinon je sais pas comment tu t'en sors, quoi. Je pense pas qu'il y ait de game over dans Pokémon, je peux me tromper, mais je
me souviens vaguement, je crois que c'était dans attention les jeunes, vous allez pas connaître ça,
les jeunes, là j'ai parti
dans Télévisateur 2, il me semble que c'est là-dedans, mais peut-être dans une émission de l'époque, où en fait il y avait un Mario et tu jouais avec ton téléphone.
Non, c'est Hugo Délire. Non, c'est Hugo Délire.
Non, il y a Hugo Délire, mais il y avait un truc avec Mario.
Je me souviens pas de ça.
En fait, je crois que tu appuyais sur une touche de ton téléphone et ça le faisait sauter. Et donc, à l'écran, tu voyais Mario qui avançait. Et tu appuyais sur ta touche de téléphone pour qu'il saute. Et donc, c'était un peu le même genre. Moins bien, mais.
Puis c'est surtout, il y a un seul mec qui jouait.
Ouais.
Donc il y avait une latence de connard, mais il y avait qu'un seul mec au bout du fil appuyé sur son téléphone comme un débile. Donc,
Non, c'était un truc avec plein de gens. En fait, tout le monde jouait en même temps.
Ah bon,
Il faudra
qu'on essaie de retrouver l'archive. Ça pourrait
Charles
être intéressant.
Twitter, nous le tweeterons après l'émission. Si on trouve.
Voilà, on essaiera de retrouver.
Si on trouve.
Bon, je vous propose de marquer une première pause musicale. J'avais dit qu'on ferait un tour de l'actu rapide, puis en réalité... Ça s'est un peu prolongé, mais c'était intéressant.
Trop long.
Ouais, non, toi ça va. T'as un bon point parce que t'as été bien.
Voilà, ça rattrape de l'édition précédente.
Merci.
Bon, on va s'écouter un premier morceau musical qui est en Guadoupaté. J'ai paumé le truc que je voulais envoyer. Non, il est là.
Comme d'habitude.
Moi, j'ai fait un peu de la merde, mais pas tant que ça. Je suis pas non plus complètement. Voilà.
Vas-y, annonce une musique de Mario.
Donc là, j'essaye de meubler un petit peu le truc. Non, on va écouter le thème aquatique de Donkey Kong Country. Juste après, on parle de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Vous l'avez probablement déjà entendu parmi nos beds musicales qui nous accompagnent tout au long de l'émission. Et donc là, vous l'avez en version intégrale. Et on se retrouve dans 3 minutes 30. Voilà.
À tout de suite.
Et nous voilà de retour.
Tout de retour.
Avec un super jingle.
Tropical Freeze.
C'est pas possible.
Ça me fait penser à la voix de...
Tropical Freeze.
Ah non, il va tous nous les faire. Il va appuyer sur tous les boutons de sa carte son.
Donc, Tropical Freeze.
Non, alors, c'était quel bouton sur l'édition précédente? Non, la voix de robot, la méduse.
Tu veux une voix de robot?
Tu veux nous faire une voix de robot.
Tropical Freeze.
Ah, c'est pas terrible.
C'est pas terrible.
Non, ça fait pas très robot.
Ça fait pas très robot.
Il y en a plein, mais je les ai toujours pas testés.
Donc, Donkey Kong Country Tropical Freeze.
C'est mieux quand Méduse le dit.
Ouais, non, mais d'accord, mais moi j'essaie de faire avancer cette émission un petit peu.
Anarchie.
Démocratie.
Up.
Start 9.
Ok, non mais faudrait un jour qu'on fasse une émission comme ça. On va vous proposer les auditeurs Plays Dojobar.
Ouais, Plays Dojobar, édition des chiffres et des lettres.
Ouais, ça va être compliqué. Ça va être très 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 compliqué. Donc, reprenons un petit peu de sérieux. Donkey Kong Country Tropical Freeze. Alors, si je dis pas de bêtises, Méduse, tu l'as même pas acheté parce que t'es un...
Même pas encore acheté.
Ouais.
C'est prévu.
T'es un traître, surtout t'es un sale traître qui achète pas les jeux Nintendo. Je te rappelle que c'est le seul jeu que t'auras avant Mario Kart.
J'ai quand même une dizaine de jeux Wii U. Mal.
Oh, merde.
C'est pas mal.
Ah, je te bâche d'en avoir 12.
Non seulement 2 d'Ubisoft.
Vous êtes des menteurs, il n'y en a pas 12.
Merde, ça fait
bien joué. Non, mais je te rappelle que c'est le seul jeu que tu auras jusqu'au 30 mai.
Oui, voilà. Oui, je sais.
Bon, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on en profite quand même. Faut essayer de savourer celui-là. Alors, je crois que Sirard, t'as joué un tout petit peu, mais il y a plein de trucs que t'as pas compris en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'en préparant l'émission, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas encore.
Ce dont tu parles, ce qui te vient à l'esprit, je savais que ça existait. Seulement, je m'en sers jamais parce que je sais pas trop quand le faire. Mais
on va peut-être commencer par la base justement. Alors, on a deux nouveaux personnages secondaires. Donc, dans Donkey Kong Returns et Donkey Kong Returns 3D, on avait Donkey et Diddy. Diddy étant chevauché sur le dos de Donkey la plupart du temps, en tout cas quand on est à un joueur.
Et il aime ça, je crois.
Ah oui, il était dessus, il adore ça. C'est très difficile de se concentrer. Et là, on a donc Cranky, donc là il se met au mature, donc. Et Dixie, donc là c'est. Là, on a les deux, quoi. On a la mature, on a la MILF d'un côté, on a Cranky. Donc on a la team de l'autre,
on a le jeu Peggy 40 et Peggy 65.
C'est un peu le concept. Et Dixie. Alors je sais pas si rare, est-ce que toi, quand tu vois un tonneau qui change de lettre comme ça, t'as tendance à prendre quoi? Diddy, Dixie, Cranky?
J'ai tendance à prendre Dixie.
Est-ce que tu as une raison particulière? Parce que pour moi, la différence entre Dixie et Diddy, elle est quand même pas gigantesque. En gros, Diddy permet de planer dans les airs quelques secondes, exactement comme ce qu'il faisait avant, en fait.
Absolument.
Et Dixie te permet de faire la même chose, mais avec éventuellement un petit boost sur la fin du saut.
Donc c'est mieux.
Ouais, mais moi, quand je vois un tonneau, c'est de la bibine, hein, pour moi. Ah bah oui.
Pouette.
J'aurais dû ça à Madame Chi. Madame Chi. Ouais, mais alors du coup, parce que le boost de saut, tu t'en sers quasiment jamais en réalité. Je veux dire, faut vraiment avoir merdé ton coup pour t'en servir.
Non, mais c'est pour aller plus haut quand il y a des petites bananes à récupérer qui sont un peu trop hautes. C'est pratique. Bah, disons que, en fait, est-ce qu'il y a un intérêt à prendre Diddy, Dixie? C'est surtout ça.
Ben, il y a des fois où tu sais, t'as des ennemis qui sont en hauteur et en fait, tu fais un saut et le petit boost de saut à la fin de Dixie, bah, tu te prends juste l'ennemi dans la gueule, quoi.
Ouais, c'est parce que t'es pas doué.
Ça m'est arrivé, ouais, voilà, c'est probablement parce que je suis doué. Ça m'est arrivé deux, trois fois, du coup, je me suis dit, ok, Dixie, non. Voilà, et du coup, est-ce que tu trouves que Cranky. C'est...
Oui.
Bah ouais, alors on n'a pas expliqué, donc Méduse, tu ne le sais peut-être pas. Je sais pas si tu te rappelles de la caractéristique de Cranky.
Ouais, il est connu.
Ouais, il fait le pogo stick.
Voilà, en fait, il fait ça la DuckTales. En fait, il fait un vieux pogo que tu rebondis. Et alors, il y a un aspect pratique quand même, c'est que tu peux rebondir sur les ennemis qui sont casqués.
Ouais, et sur les pics au sol aussi.
Sur les pics au sol. Et je crois qu'il y a un truc avec les. Non, c'est tout. C'est les environnements dangereux de manière générale que tu peux éviter. Mais par contre, du coup, quand tu sautes, ben, t'as la même inertie que Donkey normal.
Ouais.
Du coup, c'est un peu moisi, quoi.
Tu dois faire quoi? Tu dois sauter, appuyer sur bas et B comme dans des
clés. Non, tu appuies sur A.
Donc, ouais, deux fois sur A, et puis quoi, tu laisses enfoncer, ça rebondit tout seul. Alors, tu dois appuyer chaque fois sur A.
Tu fonces vers le bas et ça rebondit, ouais, en faisant ça.
Ah oui.
Alors par contre, le gros problème, c'est que si t'as l'habitude de jouer avec Didi et Dixie, il y a des fois, tu sais, où tu sautes, puis tu rappuies sur le bouton, tu sais, pour planer, puis en fait, tu t'écrases comme une merde dans le trou. Ouais.
C'est-à-dire exactement le même syndrome que dans l'édition précédente, quand t'avais pas Didi.
Ouais, voilà.
Quand t'as ton caisse, c'est juste injouable parce que t'as pris trop l'habitude d'avoir Didi. Et donc tu préfères mourir pour aller récupérer le tonneau que continuer tout seul avec Donkey parce que
t'as un putain de traîneur de merde.
Non, ouais, mais ça m'arrivait souvent de recommencer un niveau parce que t'es arrivé au checkpoint, tu reprends au checkpoint, y a pas le tonneau. Et du coup, tu te rends compte que les 2-3 premiers sauts, si tu veux les faire, tu vas perdre 15 vies et y passer 30 minutes.
Le tonneau est avant le checkpoint, c'est ça?
Ouais, voilà, il est avant, et puis il est avant le fossé avant le checkpoint et tu peux pas y aller ou des conneries comme ça, quoi. C'est vraiment le design super, super vicieux.
Ouais. Non, mais on pourrait tout faire avec Donkey, enfin presque, mais en fait on prend l'habitude de ce confort de Didi, de Dixie, et du coup quand tu l'as plus, bah, t'as trop pris l'habitude. Ouais,
c'est comme un handicap. Il n'y a aucun niveau qui requiert absolument un personnage juste pour être traversé, c'est uniquement pour faire les 100%.
Ça dépend. Si c'est le cas, alors ce qui se passe, c'est que t'as plusieurs types de tonneaux, en fait. T'as des tonneaux qui roulent sur eux-mêmes, en fait, et qui te montrent. Donc t'as un tonneau, il y a écrit DD, c'est Didi, un tonneau, il y a écrit DX, c'est Dixie, un tonneau, il y a écrit CK, c'est Cranky. Et en fait, les tonneaux tournent comme ça. Donc si tu veux, quand t'arrives sur un tonneau comme ça, tu peux choisir le personnage que tu veux. Il suffit juste de choper le tonneau au bon moment. Et il y a des passages, en fait, dans le jeu où t'as un tonneau avec spécifiquement Cranky ou Didi ou Dixie. Donc en gros, c'est les développeurs qui te disent si tu veux passer là, simplement, prends ce tonneau-là et ça ira plus vite, quoi.
Mais je pense que quand même, ça doit être possible sans. Mais bon, j'ai pas tout vu.
Moi, ce que j'ai constaté pour avoir bien retourné Donkey Kong Country Returns et Tropical Freeze, là, je suis vraiment pas loin. Je suis au boss de fin, en fait, donc j'ai quand même super avancé. Tu peux, en théorie, tout faire avec Donkey, sauf que je pense que c'est pas possible de récupérer tous les bonus en ayant seulement Donkey.
Voilà. C'est ça, c'est sûr.
Parce qu'il y a des
lettres... Ou alors faut être japonais ou...
Ouais, faut être japonais, ouais. Faut être asiatique, en général. Ouais, voilà. Mais oui, parce qu'il y a des lettres qui sont vraiment impossibles à choper sans perdre une vie. Si t'as que Donkey, je vois pas comment tu peux faire, quoi. Ouais. J'essaie de...
Par rapport à tout le monde, moi j'ai pu un petit peu constater dans la presse que généralement, il a fait l'unanimité, ont émis des réserves ceux qui ont trouvé le jeu trop dur. Est-ce que le jeu est vraiment trop dur ou alors est-ce que les testeurs savent juste...
Moi je vais te dire un truc, c'est que j'avais pas du tout lu les tests, donc j'ai pas été influencé par ces considérations-là. Au monde 1, niveau 3, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud quand même. Et alors c'est couillon, hein, mais et venant de Super Mario 3D World... évidemment, ouais, ça fait un choc parce que 3D World il est quand même ultra facile, sauf le tout dernier monde, la couronne qui est un peu chaud.
Ouais.
Mais il reste très amusant. Mais Donkey Kong, il y a des passages, et même dès le troisième niveau, je me suis dit, bah, franchement, un petit il peut pas faire ça, quoi. Enfin, ça me paraît trop difficile.
Ce qui est marrant, c'est que le jeu il est 3+, en fait. Moi, ça me fait triper aussi de me dire que tu mets que ça, que un gamin de 3 ans, tu lui files ça, mais tu le traumatises à vie, quoi. Dire après, dès qu'il voit un gorille, il sauve en courant, lui jetant des cailloux, quoi. Je vois pas le.
Les passages un peu difficiles, c'est surtout un peu de la synchronisation. Donc il y a 3 boutons, il y a un bouton pour sauter, un bouton pour s'accrocher et un bouton pour courir, en gros. Et donc, globalement, le bouton courir, tu l'as tout le temps appuyé, sinon c'est presque trop facile, tu vois. Et donc, des fois, tu as des cordes qui descendent. Et moi, je sais qu'il y a un passage où c'est justement ça dans le troisième niveau là, qui m'a stressé, c'est que tu as une liane, donc il faut que tu la lâches. Donc il faut que tu lâches le bouton d'accrocher. Et tu le lâches pour aller sur une liane qui est juste en dessous. Donc en fait, il faut que tu lâches, que tu rappuies. et la liane est super courte et il faut que tu ressautes derrière. Donc en fait, il faut que tu t'appuies sur saut. Et en fait, au début, quand t'es un petit peu crispé par ce truc-là, t'appuies sur les trois boutons en même temps et puis tu lâches jamais, quoi. Et tant que tu t'es pas détendu,
tu peux pas.
Ouais, mais t'appuies sur tous les boutons en même temps parce qu'il était super crispé. Ça va globalement assez
d'ailleurs,
vite. Et dès que t'as pris le truc et que tu t'es un peu détendu, bon, effectivement, ça passe. Mais
d'ailleurs, je voulais poser une question à ce sujet.
Faut prendre un Valium avant de jouer.
Ouais, c'est un peu ça. Faut prendre un relaxant musculaire avant de jouer. Est-ce que tu as eu la même sensation que moi, à savoir que sur la version Wii, donc sur Donkey Kong Country Returns, finalement, on n'avait que deux boutons. Et ben, en gros, rouler, sauter et puis. Je sais plus s'accrocher, je sais plus comment ça se faisait, du coup je me demande s'il s'accrochait pas automatiquement.
Non, il s'accrochait pas automatiquement. Non, je pense qu'il y avait bien un troisième bouton, mais bizarrement j'ai eu l'impression que c'était différent, mais vu que j'y ai pas joué depuis longtemps.
Je me demande si c'est pas le bouton pour rouler qui servait pour s'accrocher en fait. Ah, voilà, globalement Donkey Kong Country Returns, t'avais en gros un gameplay NES, on va dire, où t'avais effectivement la croix, deux boutons, et puis t'avais éventuellement secoué une fois de temps en temps, c'est-à-dire que tu secouais en bas, ça faisait je sais pas quoi, tu pouvais taper par terre et tout. Est-ce que t'as trouvé ça gênant, toi, de passer un gameplay finalement à trois boutons, puisqu'il n'y a plus de boutons soufflés et que...
Je suis quasi sûr que c'était trois boutons déjà. Mais par contre, l'absence du fait de souffler et la plus grande facilité à taper par terre, c'est appréciable. Parce que on peut expliquer que ils ont remplacé donc les trucs qu'on souffle et les trucs qu'on tape, finalement ça reste les trucs qu'on souffle, en fait ils ont changé par des espèces de cordes au sol. Je sais pas s'il y a d'autres trucs après dans les niveaux d'après.
Non, c'est une corde qu'on agrippe et on tire dessus tout simplement, voilà, avec le bouton de grab, en fait le bouton accroché, le même que pour les lianes.
Et du coup, d'une part, c'est assez logique. Bon, il n'y a pas de. Alors, j'ai pas joué avec la Wiimote, mais avec le gamepad, il n'y a pas de secouage quelconque. Donc, ça se fait mieux. Moi, globalement, j'ai trouvé que c'était mieux en termes de maniabilité, mais c'est pas très très différent, cela dit.
D'accord. Donc, pour revenir juste sur le sujet de la difficulté, puisque c'est effectivement le truc qui a un petit peu fait tiquer tout le monde, notamment dans la presse spécialisée. À titre personnel, je trouve que le jeu est beaucoup plus facile que Donkey Kong Country Returns sur Wii, qui était quand même franchement hardcore. Le Donkey Kong Country Returns 3D, je trouve, avait bien corrigé le tir de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y avait un petit peu moins de... Tu pouvais aller acheter plein d'options dans le magasin de Cranky pour... Tu rachètes toujours des vies. De toute façon, les vies, t'en achètes des dizaines parce que c'est un peu le principe dans Donkey Kong Country. De toute façon, c'est... Tu perds énormément de vies, mais t'en gagnes énormément. Donc, c'est vraiment du trial and error quasiment tout du long. Mais là, t'as beaucoup plus d'options. T'as les ballons verts qui permettent de te rattraper, comme dans Donkey Kong Country Returns 3D qui n'existait pas sur la version Wii. T'as les tonneaux qui te permettent de démarrer tout de suite avec Didi, avec Dixie ou avec Cranky. T'as les cœurs supplémentaires, t'as un bouclier pour quand tu fais les niveaux avec des véhicules, typiquement avec les chars ou avec les fusées. Enfin, je sais pas, je le trouve largement plus... Deuxième Merlot.
Santé.
Je le trouve personnellement largement plus simple que Donkey Kong Country Returns, qui était vraiment hard. Il y a juste un seul exemple. Dans Donkey Kong Country Returns, tu avais très rarement 3 checkpoints par niveau. T'en avais 1 ou 2, jamais 3. Là, dans Donkey Kong Country Tropical Freeze, t'en as quasi 3, c'est le minimum, en fait, pour les niveaux.
Ah oui. Et les niveaux sont plus grands ou alors à peu près pareil ?
Non, c'est à peu près pareil. Donc c'est vraiment, t'as des... T'as vraiment trois étapes assez claires dans le niveau, et puis okay. Je vais te dire, comme disait Syrah, en fait t'es ultra tendu jusqu'à ce que t'arrives au checkpoint. En général, au checkpoint, tu fais que des conneries, tu te roules par terre et tu recommences, tu passes une ville, quoi.
Parce que
t'es tellement content, tu te relaxes et là tout d'un coup tu fais des conneries, ouais. Tu te fais niquer, quoi. Et il y a un autre truc, et ça je pense que Syrah sera d'accord avec moi, dans les niveaux avec véhicules sur Donkey Kong Country Returns, oui, tu n'avais qu'un seul point de vie sur ton véhicule, c'est-à-dire tu heurtais un truc,
c'était foutu.
Non,
c'était foutu. Si tu heurtais un truc, c'était fini.
Tu crois?
Ah, je suis certain. Tu heurtais un truc, c'était fini, et là t'as deux points de vie. Ça a l'air de rien comme ça, mais la fusée, je suis sûr. Le char, je suis un petit peu moins sûr, mais la fusée, je suis sûr. Tu prenais un coup, c'était fini.
Alors, Ouais, parce que je me disais, ouais, mais en même temps, ma femme, elle a quasiment fini la version précédente. Mais elle y a joué sur 3DS, et donc il y a effectivement le syndrome 3 cœurs.
Il y a les 6 cœurs même quand t'as.
Ouais. Et donc, du coup, effectivement, ils ont ajouté une dose de facilité en donnant la possibilité d'avoir 3 cœurs ou 6 cœurs. Mais bon, et dans les deux cas, hein, mais je me demande si c'est pas encore plus avancé dans cette version-là. Il y a de la vie à gogo, quoi. Donc moi, je sais qu'à la fin du troisième niveau, ouais, j'avais 26 vies. et là, je pense donc que je suis au début du troisième monde. Il me semble que j'en ai entre 80 et 90. Alors ouais, que je fais pas de la course au ballon, quoi. Mais quelque part, je trouve que c'est la bonne façon de faire. C'est de filer des vies à mort, mais de rendre le truc super dur. Donc en fait, tu t'en fiches de perdre, de mourir. En même temps, t'as pas envie de dilapider tes vies, donc c'est pas comme si t'en avais d'une manière infinie. Puis ça a été une sorte d'orgueil qui fait que t'as envie d'en avoir le plus possible, donc t'en perds pas bêtement. Mais...
Voilà, tu t'essayes d'éviter d'en perdre bêtement, même si ça. Enfin, je pense que ça nous est arrivé à tous les deux. Il y a des passages où tu vas perdre 10 vies, 20 vies d'affilée parce que t'arrives pas à avoir la bonne synchro pour faire accrocher, sauter, désaccrocher, machin, roulade, retruc, machin. Surtout si t'essayes de choper toutes les lettres Kong, par exemple, du premier coup. C'est-à-dire que tu te dis pas, je vais refaire le niveau pour choper les lettres, mais t'essayes de les faire dès le premier run. Il y en a certaines qui sont quand même bien vicelardes. Faut le dire.
Ouais. Mais le fameux truc dont je parlais qui était difficile là, avec les deux lianes tout à l'heure, en l'occurrence, c'était juste pour avoir 5 bananes. Donc j'ai dû perdre 10 ou 15 vies juste pour avoir 5 bananes.
C'est pour le principe. C'est pour le
ouais,
principe.
Mais je me suis dit,
on laisse pas de bananes derrière.
Voilà. Les gens, ils vont glisser dessus ou alors ils vont les lancer sur des ministres.
Ouais, donc ouais. Franchement, ça se fait pas. Quoi.
Ça se fait
pas. Faut pas le laisser au hibou glacé. Là.
Au hibou glacé.
C'est mes bananes.
C'est tes bananes, ouais. C'est tes bananes. J'avais un dernier petit truc à te demander, Cyril, puisque tu as joué au jeu. Contrairement
moi.
À l'autre traître.
Exactement.
Voilà. est-ce que tu as pu faire des niveaux aquatiques? Il me semble qu'il y en a dès le début.
Oui. C'est pas des niveaux où tu peux vraiment te balader.
Alors, il y en a un petit peu plus loin, en fait.
Mais c'est des niveaux où globalement, l'eau fait la taille de l'écran, quoi, et donc tu peux aller un peu en bas, mais t'es obligé de toute façon de partir.
Ah, mais c'est une petite zone sous-marine, quoi.
Alors, dans les premiers mondes, t'as des petites zones sous-marines, et en fait, il y a un monde, je crois que ça doit être le 4e île, un truc comme ça, où tu as des niveaux entiers qui sont sous-marins. Quasi entiers, c'est-à-dire où t'as quelques petites poches d'air de ci, de là, mais où le niveau se déroule majoritairement sous l'eau. Est-ce que tu trouves ça agréable? Est-ce que ça t'a choqué? Parce que, à titre personnel, ce que j'aimais pas du tout dans Donkey Kong Country, l'original, c'était les niveaux aquatiques. C'était vraiment... C'était la galère. C'était super dur, en plus.
Dans le premier décassé.
Ah oui, dans le premier décassé.
Hein, même.
Et on vient d'en écouter la musique, non?
En plus, oui.
Ouais, mais...
Complètement.
Pourtant, je l'ai fait deux fois 120%, mais je m'en souviens pas du tout.
Et c'est mais si, il y en a. Bah, si, il y avait même Anguard.
Et donc, du coup
Globalement, moi, je.
Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, c'est juste pour savoir, parce que j'avais un peu peur, moi, quand ils ont annoncé qu'il y avait. Quand on a vu les trailers où il y avait le retour des niveaux aquatiques. Moi, j'avais bien aimé que dans Return, s'il n'y en ait pas, tu vois, ça m'arrangeait bien parce que je trouvais ça horrible. Mais là, en l'ayant en main, je me dis finalement, tu nages très vite. C'est relativement maniable, c'est galère parce qu'il faut que tu gères ta jauge d'oxygène et tout ça, mais ça se fait, quoi. C'est pas une torture, on va dire.
Globalement, j'ai toujours détesté les niveaux aquatiques dans tous les jeux.
Bien vu au club.
Ouais, je trouve ça pas bien, et à chaque fois que je vois qu'il y en a, ça m'énerve. Il y a quelques petites exceptions où je trouve que c'est assez bien fait. J'en ai pas vu beaucoup, hein, là, du niveau aquatique, mais j'ai eu l'impression que c'était rapide. C'était assez énergique. Mais c'est vrai que c'est difficile de me faire une idée. En fait, le gameplay, il change tellement entre un niveau aquatique et un niveau normal. Et vu que finalement, ce qui me plaît, c'est un peu le niveau normal. C'est vrai que j'ai quand même peur, mais ça avait l'air d'être assez punchy, donc ça, c'est une bonne nouvelle.
C'est quand même, ouais, c'est une bonne nouvelle quand même. Perso, les niveaux aquatiques, je suis rarement friand aussi, mais à la longue, en fait, j'ai failli pas m'habituer à ceux des Mario, que ce soit les Mario en 2D ou en 3D. Ça me dérange plus. Avant ouais, ça me faisait chier à fond, mais maintenant, non, je trouve que c'est assez praticable et finalement, c'est un petit rythme différent, le temps d'un ou deux niveaux, puis voilà, quoi.
Moi, je t'imagine mon
mais dans pire, les Mario seulement.
Mon pire cauchemar, moi, c'est le jeu Echo le Dauphin, parce que tout le jeu, c'est un niveau aquatique.
Ah oui,
je sais
bah
si
oui.
Tu vois un peu le truc horrible,
ouais,
quoi.
Je vois, bah, j'ai jamais joué, mais je vois le jeu, ouais.
Ah bah, moi, j'y ai joué, je vais te dire, j'y joue pas, hein, parce que ça n'a aucun intérêt.
Tout le jeu, c'est un niveau aquatique, putain,
j'ai souvenir
tout le jeu.
D'un monde du premier Sonic sur Mega Drive qui était un monde aquatique, c'était le monde 4, je crois, c'était horrible.
Voilà, non, mais c'est horrible. Pourquoi les gens font des niveaux aquatiques? Un jour, on fera un topic à troll là-dessus. Pourquoi
ouais,
les
non,
gens
ça,
font des niveaux aquatiques?
On peut lire assez souvent en plus. Pourquoi est-ce qu'ils font des mondes aquatiques? Non, quand même, il y a des trucs qui sont vraiment magnifiques, comme le Dire Dogs dans Mario 64, qui est vraiment
ouais, c'est le seul, quoi, si on veut dire.
Non, celui de Mario Galaxy, enfin, dans Mario Sunshine, ouais, dont il y en a plusieurs aussi.
Dans Mario Sunshine, il y a quelques-uns qui sont pas si mal que ça, mais enfin, c'est vrai que c'est un peu galère. Bref. Bon, messieurs, on va marquer une petite pause.
Il a essayé en multi,
mortel.
Le décal.
Oui. Ah, pardon, oui. Attendez.
Il faut que tu nous parles des Super Kong Power.
Ah oui, il faut que je parle des Super Kong Power. On va finir là-dessus, d'ailleurs, parce que ça...
Parce que moi, c'est le petit point où, en fait, à un moment... Ouais, je vais exposer et ensuite tu nous expliques. Parce que,
vas-y, je te laisse faire.
Dans le jeu, à un moment, ils nous disent... Je pense qu'il y a une sorte de jauge qui monte, je ne sais pas trop comment. Et à un moment, ils nous disent « appuyez sur LR ». Dans les premiers niveaux. Donc tu appuies sur LR, et effectivement, soit il y a des méchants qui meurent à ce moment-là, ou je sais plus ce qui s'est passé la deuxième fois. Puis ensuite, il te dit plus quand le faire, et quelques fois je l'ai fait, et il se passait rien. donc moi, j'ai pas vu trop l'intérêt. C'est vrai que sur les deux premiers mondes, finalement, je l'ai jamais fait. Ou en tout cas, j'ai jamais fait, et ça.
Alors
Ça m'a jamais apporté quoi que ce soit.
Tonton mortal, explique-nous.
Et oui, Jamy, comment ça marche cette merde? C'est bien parti. Alors, Jamy, c'est très simple. En fait, quand tu ramasses 100 bananes dans un niveau, tu as ta jauge de bananes qui est au max. La jauge de bananes, elle est juste à côté, en fait, de là où tu as la jauge d'oxygène.
Ouais,
bleu. Donc t'as une jauge de banane qui est verte, je crois, tout le long, et elle est jaune quand elle est remplie. C'est en fonction des bananes. Donc quand t'as ramassé 100 bananes dans un niveau, donc à partir du moment où t'as ramassé 100 bananes dans un niveau, ta jauge est pleine. Et à ce moment-là, en fonction du Kong que tu as sur le dos, tu vas transformer tous les ennemis à l'écran en un bonus particulier. C'est-à-dire que si t'as Didi, tu transformes tous les ennemis à l'écran en ballon rouge. Si t'as Dixie, tu transformes tous les ennemis à l'écran en cœur doré, les cœurs dorés te permettant d'avoir en gros un cœur en plus. C'est-à-dire que tu vas pouvoir encaisser un coup supplémentaire en fait.
Mmh.
Et si tu as Cranky, c'est là où je me dis que Cranky ils ont vraiment déconné parce que non seulement ils lui ont foutu un saut secondaire pourri, mais en plus son pouvoir il est pourri, il transforme tous les ennemis en pièces bananes. Vu que les pièces bananes t'en as, mais à foison, je vois vraiment pas l'intérêt quoi.
D'accord. En fait, c'est vachement bien ce super compo. Voilà.
Avec Cranky, quand t'as la banane, tu peux avoir encore plus de bananes.
C'est un peu ça, d'accord. Non mais c'est juste ridicule.
Non, Cranky, c'est pas des bananes, c'est des pièces.
C'est des pièces
avec
lesquelles
tu peux
acheter dans le magasin de Funky.
Ah oui, d'accord. Genre tu peux acheter des vies et des genres de trucs.
Voilà. Donc ouais, le problème, c'est que quand tu finis, je sais pas, il y a Sirar qui disait qu'à la fin du premier monde, il avait 30 vies. Moi, à la fin du premier monde, j'avais genre 600 pièces bananes, quoi. Je veux dire, ça pleut, t'en as partout, quoi. Parce que t'as toujours le même truc que dans le premier épisode, tu rebondis trois fois sur un ennemi, ça fait une pièce banane, enfin, t'en as partout donc.
Ouais, Est-ce qu'il y a des boss souvent? Ou alors uniquement.
À la fin de chaque monde?
À la fin de chaque monde, pas un boss.
À la fin de chaque monde, sachant qu'il est en trois phases systématiquement et qu'ils sont vraiment, vraiment. Alors, d'accord. Donc là, au niveau difficulté, par contre, on est d'accord, les boss ils sont vraiment, vraiment, vraiment pas faciles.
Ah ouais. Bon?
Ouais.
Non, j'ai vu que les deux premiers, mais.
Le troisième boss, il va te faire t'arracher les cheveux. C'est.
D'accord.
Ouais. En gros, il y a l'avant-dernier monde, donc l'île numéro 5, avant de revenir sur l'île de Donkey gelée. J'ai mis plus de temps à battre le boss qu'à faire tous les autres niveaux. Sachant que je ramasse systématiquement toutes les lettres Kong.
Ah oui, d'accord.
J'ai été sur le deuxième boss, j'ai mis du temps à comprendre, en fait, juste ça. Bêtement, en fait, j'ai essayé tout et ça marchait pas. Et puis finalement, quand j'ai trouvé le truc, bah, c'est ultra facile, mais alors, j'ai pas trouvé ça super difficile.
Ben, franchement, je te garantis.
C'est parce que tu n'utilises pas Dixie, en fait, c'est pour ça.
Alors, c'est peut-être aussi ça, mais le boss de la troisième île, il est vraiment immonde. Parce qu'en fait, il a je sais pas combien de patterns. En plus, comme chaque boss a trois phases, sur chaque phase, t'as des patterns différents. Le truc, il les enchaîne de manière, je trouve, complètement illogique. Et mine de rien, t'as que 4 cœurs, donc une fois que t'as plus Dixie ou Didi sur le dos, t'es dans la merde, quoi.
Tu dois vraiment bien étudier les patterns avant de pouvoir te dire je sais comment je vais réagir.
C'est exactement ça. En gros, si tu perds le Kong que t'as sur le dos à la première phase, c'est pas la peine, tu peux recommencer, quoi. En gros, il faut faire une première phase et une deuxième phase parfaite pour espérer battre le boss à la troisième. C'est à peu près ça.
Moi, je me souviens de quelques boss sur la version Wii qui étaient assez difficiles. Il y en avait un où on était sur des wagons.
Avec la taupe.
Ouais,
c'est la grosse taupe.
Je trouvais que c'était assez chiant. Et puis il y en avait un autre où il fallait que tu t'accroches sur des c'était des espèces de terrain circulaire où en fait tu pouvais t'accrocher et puis tu avais une espèce de serpent qui
oui,
tournait autour.
Oui, tout à fait, je vois celui dont tu parles.
En tout cas, les boss que j'ai vus pour l'instant, ils m'ont paru moins difficile que ceux dont je viens de te parler, mais
voilà. Bah attends d'être au boss aquatique, tu vas voir, celui-là il est marrant aussi.
Bah dans deux semaines, je te ferai un compte rendu du boss 3.
Ouais, voilà, c'est bien ça.
Ouais.
Bon, allez, on va quand même se faire cette petite pause musicale, donc
rien que
pour vous, en exclusivité mondiale du Dojo Bar, nous allons écouter le rap de Donkey Kong 64.
Ah.
Voilà, je savais que ça te ferait plaisir.
It's finally here.
Toi aussi chez toi, tu peux taper dans tes mains et chanter, c'est autorisé. Allez, on te retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes.
The leader of the bunch.
À tout à l'heure.
Well.
Je te laisse moi. Here we go. Voilà, et nous voilà de retour.
Walnuts, peanuts, pineapple smells, grave melons, orange and coconut smells. Oh yeah.
C'est horrible.
Affirmé.
Non, c'est trop bien.
Alors c'était la bonne période de rire. Bah justement, on va commencer par le. On va faire
de retour.
Petite
tout tour.
On va faire une petite rétrospective. Rare très rapide parce que.
Une rétrospective.
Donc vous connaissez forcément les frères Stamper, Tim et Chris.
Yeah. Absolument.
Voilà.
Je
vous
les
savez
ai
qu'ils
vus hier soir.
Ils sont sympas. Ça va. Il va mieux. Il s'est remis de son chlamydia.
De son milliard de dollars.
Ouais. Alors justement, on va commencer par le. Alors vous savez que les frères Stamper ont fondé leur propre société. Est-ce que vous connaissez le nom de leur première société?
Non.
J'avoue que non.
Alors vous connaissez peut-être Ultimate Planet.
Attends, je lance Wikipédia.
Non, tu lances pas Wikipédia. Tu triches. Non, tu triches.
Arrête.
Alors Ultimate The Game, c'est en fait le premier label qu'ils ont créé, mais la société qui était derrière s'appelle Ashby Computers and Graphics. Et est-ce que vous savez pourquoi elle s'appelle Ashby? Est-ce que vous avez une petite idée?
Ashby, ça s'écrit comment déjà?
Alors c'est A-S-H-B-Y.
Ashby.
À votre avis, ça correspond à quoi?
Aucune idée. Voilà.
Alors c'est tout bête, c'est le bled de leurs parents, c'est-à-dire qu'ils ont commencé dans leur garage les mecs, mais vraiment dans le garage de leurs parents. Les mecs ils habitent dans un bled qui s'appelle, je déconne pas, qui est en Angleterre, c'est son vrai nom, il s'appelle Ashby de la Zoute.
Je sais pas si tu connais le... une boîte et j'appelais ça Brice sur Marne Production.
Ouais, c'est un peu le concept. Mais là, le truc s'appelle H-Bite de la Zoute. C'est horrible comme nom, quoi.
Carrément.
Et donc, ils fondent la société et ils commencent à essayer de vendre leur jeu en disant aux distributeurs, et je suis très sérieux, ils ont dit aux distributeurs que c'était les meilleurs développeurs arcade de l'Angleterre. C'est comme ça qu'ils se sont fait connaître, c'est complètement bidon, en fait, ils ont complètement bidonné le truc. Et le premier succès qu'ils ont rencontré, c'est avec leur premier jeu, c'est Jetpack sur ZX Spectrum. Je sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un ZX Spectrum.
Non, mais Jetpack sur ZX Spectrum, je crois que tout le monde en a entendu un petit peu parler à un moment.
Voilà, bah, t'en as entendu parler.
Ils l'ont inclus dans un de leurs jeux d'ailleurs, je crois.
Exactement. Alors, et c'est pas tout à fait Jetpack qu'ils ont mis dedans, c'était un autre jeu qui est de
la
suite.
Non.
Alors, c'est dans Donkey Kong 64 où t'as une version de Lunar Jetman ou Solar Jetman. C'est la version de la NES qui est disponible intégralement dans Donkey Kong 64. Et donc Jetpack a été un énorme succès, c'est peut-être pour ça aussi que vous en avez entendu parler, puisqu'il s'est vendu à peu près 300 000 unités de Jetpack pour 1 million de ZX Spectrum, c'est-à-dire que t'avais quasiment...
C'est énorme, c'est 30%.
Voilà, t'as un tiers du parc qui était équipé avec Jetpack, ça a été un succès gigantesque. Et donc le ZX Spectrum, c'est une console très particulière, enfin c'est un micro-ordinateur en réalité, c'est pas une console, qui est fait par une société anglaise qui s'appelle Sinclair. Et c'est suite à ce truc-là que donc les frères Stamper gagnent quasiment 1 million de livres grâce à Jetpack. C'est le premier coup, c'est le jackpot, quoi. Et donc Sinclair les contacte en leur disant « Bah écoutez, nous on voudrait bien faire des bundles avec vos jeux. Donc on va vous payer pour faire des jeux qu'on va mettre en bundle avec les prochains ZX Spectrum. » Et c'est là que les mecs commencent à sortir donc Lunar Jetman, qui est un autre très grand classique du ZX. Cyberwolf, si ça vous rappelle quelque chose, Cyberwolf, c'est le nom d'un personnage dans Killer Instinct. Voilà. Et la série Cyberwolf, en fait, ils ont fait 3 ou 4 jeux, dont un qui s'appelle Nightlore, qui est le premier jeu au monde à proposer une perspective isométrique.
Oh.
Sur ZX Spectrum. Donc la perspective isométrique, elle a été inventée par Rareware.
Enfin, par l'ancêtre
de Rareware. On est en 1984.
Ah oui, carrément.
Donc c'est la même perspective que t'as sur Head Over Heels, Solstice, Equinox, tous ces jeux-là, tu vois, cette espèce de perspective isométrique un peu bizarre. Voilà, donc en 85, Ocean Software et US Gold, qui sont deux sociétés anglaises, cherchent à racheter Ultimate, donc la société d'origine des frères Stamper. Les mecs, ils disent « Ok, on vend », ils vendent à US Gold. Ils fondent une autre société qui s'appelle Rare Limited. Et ils se disent, on va arrêter de travailler sur micro-ordinateur, on va commencer à travailler sur console. Parce qu'on est en 86-87.
Et c'est le début de la gloire.
C'est le début de la NES. Et donc les mecs commencent à travailler sur NES, et sur Mega Drive, et sur Game Boy. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'en 88, US Gold est au bord de la faillite, et c'est Rareware qui les rachète. Donc les mecs, ils ont vendu la boîte, je sais pas combien, une fortune à US Gold. Avec toutes les franchises qui allaient avec, c'est-à-dire Lunar Jetman, Cyberwolf, tous les trucs qu'ils avaient créés, ils l'ont vendu avec. Ils ont créé un autre truc, et genre 2 ans plus tard, ils rachètent US Gold qui est en faillite, quoi. Si c'est pas la classe, ça. Je sais pas, c'est pas ce qu'il vous faut. Hein.
Mais disons, c'est la classe jusqu'à ce qu'on sache ce qu'il adviendrait Rare plus tard, quoi.
Ouais, voilà, mais là, déjà, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Juste ça, c'est la classe. Gâche pas l'histoire maintenant. Et donc ils ont fait quand même une belle carrière sur NES, sur Game Boy et un petit peu sur Mega Drive. Finalement, ils ont assez peu développé sur Mega Drive. Donc ils font. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait comme jeu? Est-ce que vous êtes capable de me citer quelques jeux de Rare sur NES?
Battletoads et il y a Slalom.
Battletoads, qui est quand même un truc gigantesque. Vous n'en avez pas
et
un
Slalom,
autre là?
Je connais.
Slalom, ouais. Alors ça va peut-être vous étonner, mais ils ont fait aussi beaucoup d'adaptations de jeux télé et d'adaptations de licences. Donc, qui veut la peau de Roger Rabbit sur NES, c'est Rareware. Jeopardy sur NES, c'est Rareware. Donc, ça fait un peu peur. Et ils ont même fait un jeu absolument complètement un ovni sur NES, qui est un jeu de divination en fait. C'est-à-dire que c'est un tarot mais sur NES.
D'accord.
J'ai plus le nom en tête parce que je l'ai pas noté malheureusement, mais c'est un des pires jeux qui existent sur NES parce qu'en fait c'est juste un jeu de tarot, de divination, c'est-à-dire que tu fais que retourner des cartes avec les symboles du tarot et dans le manuel en fait il t'expliquait comment les interpréter, enfin tu vois, c'est un truc complètement hallucinant.
Pas mal. Je pense qu'ils se vendraient même pas 69 centimes sur téléphone aujourd'hui.
Ouais, c'est à peu près ça. Mais à l'époque ils le vendaient 40$ sur NES, quoi, tu vois, c'est un peu ça.
Et ça se vendait.
Bah, c'est-à-dire que le mec qui l'a acheté, je pense qu'il est un peu vénère. Après, c'est pas le jeu le plus prisé de la NES, hein, je vous rassure, mais...
Faudra demander à Oscar les chiffres de vente de Zoo sur NES.
Mais à part sur VG de Sars, on les trouve pas, donc tu les auras pas.
Heureusement qu'il est pas là, il serait trop
ouf. Ouais, alors là, si c'est lui qui nous écoute...
C'est affiché, là.
Cher auditeur au singulier, si tu nous écoutes... Nous ne faisons pas confiance à VG Charts. Il y a aussi une autre licence qu'ils ont lancée qui est complètement tombée dans l'oubli depuis, alors que c'est un très très bon jeu. Je sais pas si vous connaissez RC Pro AM.
Ah oui, c'est le jeu de voiture téléguidée, ça.
Exactement, c'est un jeu de voiture téléguidée. Bah, figurez-vous qu'ils en ont fait plein, en fait. Il y a le 1 et le 2 sur NES, il y a une version Game Boy, il y a une version Mega Drive, il y a une version Master System. Enfin, c'est assez dingue, en fait, le nombre de...
Oui, ils l'ont porté partout.
De portage qu'il y a eu de ce jeu-là, et donc c'est effectivement un des seuls jeux existants qui est un jeu de voiture téléguidée.
D'accord, et ça c'est Rareware alors.
Ça c'est Rareware aussi.
C'est le seul en fait avec celui qui est sorti sur PC 64 qui s'appelait... je sais plus.
Micro Machine ?
Non, pas Micro Machine.
Il y en avait un vraiment de pas tout à fait
Revolt,
pareil.
Revolt.
Ah oui, Revolt, ah. Oui.
Un jeu de voiture téléguidée qui était pas terrible.
Voilà, bah RC Pro AM est bien meilleur.
Ouais.
Ça fait déjà plaisir. Et donc, les petits gars de Rareware, tout début des années 90, quand ils ont bien amassé du pognon, parce que les frères Stamper, c'est quand même la machine à pognon, là, jusqu'à présent, c'est le premier développeur de jeux au monde à s'acheter des stations 3D Silicon Graphics. Je sais pas si tu vois à peu près combien ça coûtait, mais...
Cher, à l'époque, c'était facilement au-delà des 10 euros, non ?
C'est plusieurs centaines de milliers de dollars par station. C'est...
Ah oui, quand même.
Ça coûtait à peu près une couille, hein, quand même, d'avoir un truc comme ça.
Donc, une couille en or.
Attends, les mecs investissent là-dedans et se disent, l'avenir c'est la 3D, on va y aller à fond. Ils ont raison, puisque ils présentent une démo à Nintendo, donc une fois qu'ils ont fini en fait de travailler sur NES, quand ils reçoivent l'équipe de développement Super NES, ils se disent, c'est du très bon hardware, on voudrait travailler que sur Super NES. Donc ça, tu vois, c'est les frères Stamper qui sont arrivés, qui se sont dit, voilà, nous, on veut plus travailler pour Sega, on veut travailler que pour Nintendo.
Ils ont bien raison.
Voilà, ils ont bien raison. Et du coup, ils commencent à faire leur petite démo sur Station Silicon Graphics, et vous connaissez tous, je pense que vous connaissez tous la petite histoire à propos des Station Silicon Graphics, c'est-à-dire qu'ils font leur fameuse animation 3D qui transforme en sprite Super NES, qui mettent ça sur un écran, ils montrent ça à Takega de... Takeda, de Nintendo, je n'ai pas y arrivé.
Ouais.
Qui regarde sous la table pour voir où est la station Silicon Graphics, et on lui dit non, c'est juste la Super NES qui est là, et le mec, il n'en revient pas. Et donc, il revient au Japon, et il dit, faut acheter ces mecs-là, et Nintendo achète 49% de Rare, quasiment la semaine suivante, je crois, un truc comme ça, enfin, ça se fait très 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 vite. Et du coup, les frères Stamper, on leur propose de piocher ce qu'ils veulent dans le catalogue de Nintendo. Alors, je crois qu'ils avaient des restrictions, ils pouvaient pas faire Mario, ils pouvaient pas faire Yoshi, il y avait quand même 2-3 trucs qu'ils avaient pas le droit de prendre. Mais on leur dit, vous prenez ce que vous voulez dans le catalogue Nintendo, le personnage que vous voulez, vous faites un jeu avec. Carte blanche. Et qu'est-ce qu'ils ont pris ?
Au hasard.
Donkey Kong, évidemment.
Mais tu oublies quand même un tout petit jeu qui est quand même un des meilleurs jeux pour moi sur Super Nintendo.
Alors vas-y.
Battletoads in Battlemaniacs.
Ah oui, effectivement, il y a l'adaptation de Battletoads. Bah, je crois que c'est d'ailleurs un de leurs premiers jeux sur Super NES, si je dis pas de bêtises.
Et il est sur le même principe de... En tout cas, sur la présentation du jeu, il montre les personnages en fil de fer. Donc je pense que d'une manière ou d'une autre, il y a un rappel de cette Silicon Graphics.
Oui, c'est très probablement, oui.
La présentation qu'ils avaient faite à Takeda de leur machin, ils l'avaient faite avant de travailler sur Battletoads ou alors après ?
Alors ça, je sais pas.
Moi, j'ai souvenir que Battletoads, il est sorti, si je dis pas de conneries, vers 94, mais il a été présenté vers 92 à peu près. J'ai encore souvenir d'un vieux Player One de cette année-là que j'avais dans lequel il y était.
Qui était aux toilettes. Parce que tu dis Player One aux toilettes.
Non, je disais pas Player One aux toilettes. Mais je lisais.
D'accord. Mais je saurais pas dire. Pour moi, cette présentation-là, elle a vraiment eu lieu très très tôt. Pour moi, ça a eu lieu genre fin 92, un truc comme ça. Donkey Kong Country, faut voir que c'est sorti fin 94. Et il y a quand même du boulot dessus. C'est-à-dire que c'est pas juste un an de développement. Il y a dû y avoir un an et demi, presque 2 ans de développement, Ce qui pour un jeu Super NES est assez long. La preuve d'ailleurs, puisque Donkey Kong Country 2 il sortira juste un an plus tard, et Donkey Kong Country 3 il sortira en 96. Donc c'est vraiment juste un an plus tard aussi. C'est, ouais. Les trois jeux se sont quasiment enchaînés. D'ailleurs, c'est très rigolo. Je sais pas, est-ce que vous avez joué à Donkey Kong Country 3 ou est-ce qu'en 96 vous avez trop envie d'une 64 et vous
non, n'avez pas joué. J'avais tous les Donkey Kong.
Oh. Fanboy de Rare.
J'ai joué le premier.
Et ben Donkey Kong Country 3, c'est très rigolo
parce
qu'en fait,
il a pas les bons jeux de toute façon.
Ouais, non, mais j'avais pas de pognon à l'époque, donc je devais faire des choix.
C'est un peu ça. Donkey Kong Country 3, c'est très rigolo parce que je sais pas si tu te rappelles, ça se passe au Crémisphère Nord, qui est en fait un monde glacé. Et du coup, ça m'a beaucoup rappelé, moi, Donkey Kong Country Tropical Freeze. C'est très marrant parce que tu retrouvais comme ça les trucs dans la neige, les astuces avec des boules de neige, les flocons qui tombent et qui te tuent, les gros flocons qui tombent et qui te tuent. Il y a pas mal de trucs qui ont été repris de DKC 3, en fait.
Je suis pas assez loin pour avoir cette impression, moi je l'ai pas eu encore.
Ouais, mais parce que t'es peut-être pas arrivé dans les îles gelées encore.
Sans doute, ouais. Non, ouais. J'y suis pas allé.
Et donc, à la fin de la vie de la Super NES, une fois que les mecs ils ont quand même bien épuisé le truc, on arrive sur N64. C'est là que vous allez probablement... Le déclin commence.
Non.
Si, le déclin commence.
Non.
Alors, non, ça commence plutôt bien. GoldenEye, je pense que...
Je peux pas dire que c'est le déclin, ça.
Non, ça, c'est pas
le déclin.
Ils ont commencé près de leur instinct...
Killer Instinct Gold.
Gold, ils l'ont appelé sur 64, c'est ça.
Qui était très bon. Alors, ouais, Killer Instinct, c'est une histoire très compliquée, en plus. Donc, Killer Instinct Gold, c'est une adaptation de Killer Instinct 2, parce que Killer Instinct 1...
En arcade.
Voilà, Killer Instinct 1 en arcade, qui était censé être la démo technique du hardware de la N64, finalement, c'est tombé à la flotte. C'était... Enfin voilà, ça utilisait d'ailleurs les mêmes principes de Station Silicon Graphics. Ah, c'est le troisième verre, tu vas être bourré, mec.
Oui. Ouais, là, on le voyait clairement, Super Instinct, c'était un jeu calibré avec des stations de travail derrière.
Ouais, non, c'est clair que le truc était quand même assez bourrin. Donc t'as eu GoldenEye, t'as eu Banjo-Kazooie, t'as eu Blast Corps.
Blast Corps, c'était génial.
Ouais. Alors voilà, ça c'est rare, je sais que t'es un énorme fan de Blast Corps. J'ai pas trop compris pourquoi, parce que c'est vrai que c'est rigolo, mais ça tient
c'est
pas la route plus de 10 minutes.
C'est...
Quoi.
Non,
c'est tellement confidentiel comme jeu, mais c'est marrant. Quoi. C'est
une dimension stratégique et de stress dans ce jeu. Moi j'avais testé juste une heure comme ça dans un magasin, mais c'était.
En fait, c'est un jeu où tu casses tout, alors c'est marrant.
Ouais, voilà, en fait, c'est juste ça, c'est juste un défouloir en fait.
Ouais. Et alors pour les gens qui ont Blast Corp, je les invite à regarder comment le mec court.
C'est, oui, je l'ai, mais effectivement, il c'est très bizarre.
Il faut regarder et tu te dis que t'étais au début de la 3D quand même. Les gens, ils savaient pas modéliser les persos quand même.
Ouais, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, il a les jambes qui bougent un peu n'importe quoi, puis il a les bras qui s'agitent super haut. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Mais c'est bon. Alors, d'ailleurs, enfin, il y a tellement d'anecdotes sur cette période-là que ce serait trop long de toutes les citer. Mais il me semble qu'un des premiers jeux sur lequel a travaillé justement Rareware pour N64, c'était GoldenEye 007. Et si je me rappelle bien, au départ, ils avaient le kit de développement, mais ils avaient pas la manette. Et donc, les mecs ont démonté une manette de Saturn, la manette analogique de la Saturn, pour la brancher sur le kit de dev. Donc, c'est-à-dire que les mecs, ils ont reprogrammé un truc pour le brancher sur le kit de dev, pour pouvoir attester un stick analogique, en fait. C'est aussi con que ça. Pour voir ce qu'ils pouvaient faire avec.
Le stick analogique de la manette analogique Saturn, c'était quand même moyen. Hein.
Ouais, en plus,
c'était... Je sais pas si vous avez testé, mais...
Ouais, c'est quand même bien pour avoir, faut le dire.
Ouais, c'est Sega, hein.
C'est Sega.
Donc, Diddy Kong Racing. Alors moi, j'étais un très grand fan de Diddy Kong Racing. C'est vrai que c'est quand même assez énorme. D'ailleurs, la version DS est une vraie bouse.
Oui.
Non.
Si, elle est horrible la version.
Par contre, autant Diddy Kong Racing en solo, j'adorais, autant en multi, il faisait quand même pas le poids à côté de Mario Kart.
Absolument.
Ça, je suis tout à fait d'accord. Et derrière, il y a Perfect Dark, forcément. Alors, quelques années plus tard, quand même, ça s'est un petit peu étalé.
Entre eux, il y a eu du monde quand même.
Hein. Entre eux, il y a eu un petit peu de monde. Alors, il y a eu Jet Force Gemini.
Excellent. Framerate pourri, mais excellent.
Ah, Framerate pourri. Alors, ça, c'est le genre de jeu dont on profite typiquement beaucoup mieux sur un émulateur. Parce qu'on n'a pas le framerate pourri. Il y a Donkey Kong 64. Alors, je suis désolé, le Donkey Kong 64, moi, je considère que c'est le début du déclin.
Top.
Non. Le rap, ok.
C'est le top, il est énorme le jeu.
Est-ce que vous connaissez la particularité de Donkey Kong 64?
Allez, il est énorme.
Bon, c'est pas ça la particularité.
Il est énorme comme ses bananes.
Il y a deux petites anecdotes très rigolotes sur Donkey Kong 64.
Vends-nous du rêve.
Vends-nous du rêve. La première, c'est qu'aux États-Unis, il est sorti sur une cartouche jaune banane.
Ah oui.
Ça, en Europe, on n'y a pas eu droit, mais aux États-Unis, la cartouche est jaune banane, mais genre jaune banane, quoi. Donc c'est assez, c'est de très mauvais goût. Alors vraiment de très très mauvais goût. Et la deuxième, c'est qu'il est rentré dans le Guinness Book des records. Est-ce que vous savez pourquoi? Le framerate le plus bas dans un jeu vidéo, c'est pas ça.
Non, c'est Jet Force Gemini.
Ouais, voilà, c'est...
Il y a le plus de bananes que dans les autres jeux.
C'est le jeu où il y a le plus de bananes.
Non, c'est pas.
Non, vous séchez. C'est le jeu dans lequel il y a le plus d'items à collecter.
J'ai failli te dire ça, en fait, parce qu'effectivement, ouais. Il y a toutes les bananes à prendre.
Alors, en fait, si tu veux finir le jeu à 100%, faut ramasser 3500 bananes au total. De 5 couleurs différentes, donc t'as 700
absolument.
Bananes de chaque
ouais.
couleur. Faut ramasser 600 et quelques pièces bananes, 40 plans bleus, 20 plans rouges, un médaillon Nintendo, un médaillon rare, je sais plus combien de médaillons machin truc, tous les instruments, toutes les upgrades des instruments et les 5 ou 6 pouvoirs que t'as pour les 5 ou 6 Kong. Donc c'est complètement délirant.
Je crois
délirant.
Que j'ai fait le jeu à 95 ou 96% et ça m'a pas paru si.
En fait, il faut savoir que tu peux le finir à 102%, je crois, un truc comme ça.
Ah oui,
oui. Ah non, et, mais.
Le mode multi était un petit peu à la con, c'était pas mal. Il y avait une espèce
oui,
de.
Oui, effectivement,
ring,
avec le truc avec les grenades.
Joueur, ou... Ça, c'était sympa.
Ouais.
Et il y avait autre chose, je sais plus quoi.
C'est très, très, très marrant.
Ouais.
Et pour moi, je suis désolé, c'est le début du déclin, parce que c'est le début de la collectionnite aiguë. Derrière, t'as Conker's Bad Fur Day, qui, au niveau gameplay, je suis désolé de le dire, est quand même un jeu un peu creux. C'est-à-dire que c'est très drôle, il y a énormément d'humour et tout ça, mais franchement...
I am the big fatty poo.
And I'm gonna throw my shit
at you.
Non mais dans DK64, il y avait effectivement beaucoup de trucs à choper, mais le level design et tous les trucs à faire...
C'était très très bon.
Puis le gameplay qui varie en fonction des 5 personnages que tu pouvais jouer, c'était énorme.
Oui, et puis c'est aussi un des jeux les plus buggés du monde. Je sais pas si vous avez vu les speedruns de Donkey Kong 64, c'est juste très 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 drôle. Non, franchement, hein, c'est... Alors en fait, ils ont utilisé une astuce de développement. Alors ça c'est pareil, c'est Stamper Brothers apparemment, c'est vraiment leur astuce à eux. C'est que le jeu ramait tellement, mais vraiment, hein, véridique, le jeu ramait tellement que les mecs ont décidé qu'à chaque fois qu'il y avait des lags, ils allaient augmenter la vitesse du jeu, augmenter la vitesse de l'affichage. Donc en fait, le jeu accélère quand il y a beaucoup de lags.
D'accord.
Ce qui fait que tu vois pas les lags, mais en fait ton perso va beaucoup plus vite. Techniquement, au niveau du code du jeu, il avance plus vite par exemple, ou il saute plus loin, ou des trucs comme ça. Et en fait quasiment tous les bugs viennent de là, c'est-à-dire que les mecs essayent de provoquer le plus de lags possible pour courir plus vite, pour passer à travers des murs ou des trucs comme ça.
C'est complètement barjo. J'imagine que ça marche.
Les runs de Donkey Kong 64 sont en général assez craqués, c'est très très rigolo à regarder. Donc,
tu vois, tu aimes bien.
Ouais, mais voilà, c'est marrant pour ce côté-là, quoi. Et donc, Star Fox Adventures, alors je vous laisse cracher votre venin, vous avez 30 secondes.
Donc, là, c'est le début de la fin.
J'ai oublié le deuxième Banjo.
Oui, il y a Banjo
Kazooie. Banjo-Kazooie, on en a parlé.
Banjo-Kazooie, on en a
aussi.
Parlé un tout petit peu. Il y a Mickey Speedway USA, effectivement, qui n'est pas un jeu extraordinaire.
Potable.
Mais qui n'était pas dégueulasse.
Pas y avoir joué.
Et donc Star Fox Adventures, je suis désolé, hein. Il faut en parler.
Non, mais c'est plus rare, c'est une autre boîte. Là.
Moi, j'y ai pas joué, mais j'ai regardé Madame y jouer et ça avait l'air quand même pas mal.
Oh putain.
Non, mais.
Bah, c'est au bout d'un moment quand t'as fait pour la 50e fois exactement la même énigme, exactement le même truc. C'est fatigant, quoi. C'est typiquement le genre de jeu, je me rappelle, alors je crois que j'avais lu l'analyse de Cyrard, je l'ai relu il y a pas longtemps d'ailleurs, qui disait voilà, c'est simple. Tu vois un tonneau explosif, c'est même pas la peine de réfléchir, tu le prends, tu sais que tu vas l'utiliser 3 mètres plus loin.
Ah,
c'est exactement
vrai.
Ça le syndrome Star Fox Adventure.
Ah, j'étais pas con à l'époque.
Ouais, non, t'as écrit des trucs bien.
Ouais.
Et donc, rachat par Microsoft en 2003.
Ah, ils sont cons, hein.
Ah oui, mais là, je pense c'est là que je me suis dit, Nintendo, en fait, ils ont fait une super bonne affaire, tu vois, ils se sont dit, ok, ça commence à sortir le moisi, là, Conker's Bad Fur Day, c'est un peu n'importe quoi, Star Fox Adventure, ça ressemble à rien.
Ou inversement, s'ils avaient racheté les 2% qui leur manquaient pour être majoritaires, peut-être qu'on aurait Rareware qui se tirerait la bourre avec Retro Studio pour faire des jeux de ouf.
Alors peut-être, mais en attendant, globalement, ils l'ont vendu... genre 10 fois ou 15 fois le prix qu'il l'avait acheté. Attends, sachant que les frères Stamper possédaient toujours la moitié du truc. À partir de ce moment-là, Microsoft possède 100%. C'est-à-dire que même les frères Stamper n'ont plus rien. Ils ont tout revendu en réalité. Ils ont vendu leur part. Alors, je sais pas, est-ce que vous êtes capable de me citer quelques jeux de la période Microsoft, les jeux marquants? Attention.
Perfect Dark Zero,
oui, qui mérite bien zéro, il y a pas de souci.
Effectivement, voilà.
Cameo,
voilà. qui est une bouse infâme.
Absolument, mais les musiques sont pas mal. Mais c'est une
les musiques
infâme.
Sont sympas. Il y a eu sur Xbox.
Visa Break Piñata.
Alors ça c'est sur 360 sur Xbox, ouais. Ils ont fait deux jeux, ils ont fait Grab by the Ghoulies.
Ah oui, ça avait l'air sympa, mais
qui est un beat'em up un peu étrange, mais qui devait être leur premier jeu d'ailleurs sur Xbox, donc voilà. Et Conker's Live and Reloaded, qui était un remake de Conker's Bad Fury Day, censuré. C'était quand même assez curieux. Ouais. C'est-à-dire sur console Nintendo, il avait le droit de dire shit, pou, machin, tout ça. Sur Xbox, c'était censuré.
Et d'ailleurs, il y a une anecdote, parce que je crois que il y a notre copain, la Blink, qui a sorti un truc là-dessus. Ouais. Et apparemment, le jeu devait s'appeler avant Live and Uncut, donc non censuré. Oui. Et finalement, en fait, ils ont été encore plus censurés que chez Nintendo. Donc le jeu a changé de nom et ils étaient un petit peu dégoûtés sur la fin. Je me souviens plus de l'anecdote, mais il y a eu une petite vengeance là-dessus. Faudra retrouver ça.
Ah, mais on mettra ça dans le résumé du podcast.
Tac.
Ça peut être sympa. Et donc, après Vivia Pignata, en fait, les frères Stamper se font la malle. C'est-à-dire qu'en 2007, eux, ils raccrochent les crampons. Aujourd'hui, ils sont dans une... Je crois qu'ils sont dans le Northampton, c'est-à-dire ils sont dans la région des retraités, en fait, en Angleterre, dans un manoir qui coûte la peau des boules, les deux, et ils font plus rien. Ils ont décidé qu'ils en avaient marre, que ça les saoulait. Et donc, Banjo-Kazooie Nuts and Balls est le premier jeu qui a été fait sans les frères Stamper, à la tête de Rare, et je pense qu'on peut dire que c'est pas une grande réussite.
Bah, Star Fox Adventure, c'est le début de la fin, et ça, c'est la fin de la fin, je crois. Parce que
ils ont fait des jeux Kinect.
Oui, ils ont fait des jeux
Kinect. Ah oui.
Et d'ailleurs, c'est eux qui ont fait les jeux Kinect qui servaient à promouvoir Kinect, genre les Kinect Sport, genre de conneries, je crois, non?
Ouais, c'est eux qui ont fait Kinect Sport, Kinect Adventures, Kinect Sport. Non, Kinect Adventure 2.
Tu te rends compte quand même que c'est ceux qu'on fait Donkey Kong Country et.
Tu vois un peu la descente aux enfers un petit peu. tu reprends l'histoire depuis le début. Les frères Stamper, premier jeu fait dans leur garage, 1 million de livres de revenus, c'est-à-dire carton complet. Ils vendent la boîte, les mecs à qui ils la vendent, ils sont capables de la racheter. Enfin, tu vois, c'est complètement crazy quoi. Ils montrent un truc à Nintendo, les mecs ils disent ok, ils font le chèque tout de suite, paf, c'est parti. Derrière, ils enchaînent. C'était probablement le seul développeur avec Nintendo à soutenir la N64. Ils étaient bien obligés. Et à partir de ce moment-là, c'est complètement parti en couille, quoi. Ouais. C'est quand même dingue quand tu essaies de remettre les choses en perspective.
C'est clair. Mais tous les gens qui étaient de toute façon de la grande époque de Rareware, ils se sont barrés majoritairement avant la période Microsoft, de toute façon.
Oui, on peut parler de
Martin Hollis. Et après, il y en a qui fondaient d'autres trucs. Il y en a qui avaient fondé Zonami ou je ne sais plus quoi.
Zonami, il y a Free Radical Design aussi, qui est une grande partie de l'équipe de Rareware, qui aujourd'hui est Crytek UK, si je ne dis pas de bêtises. Parce qu'ils ont été rachetés par Crytek après le désastre Haze. Mais c'est vrai que les équipes se sont en réalité beaucoup éparpillées. Ce qui est étonnant, c'est que finalement, les frères Stamper sont restés à la barre, malgré le fait que Microsoft ait tout racheté. Mais j'ai l'impression qu'ils en avaient déjà plus rien à foutre, en fait. J'ai l'impression que Grab by the Ghoulies devait être un des derniers jeux dans lequel ils avaient essayé de mettre un petit peu
d'originalité.
Ouais. Et Vivia Pignata, apparemment aussi, puisque Vivia Pignata.
C'était pas terrible. Honnêtement.
Ça a eu de très bonnes critiques. Moi, j'ai jamais joué, en fait. Ça avait l'air rigolo, mais voilà, ça avait l'air effectivement de ressembler à du Rare. Voilà. Mais...
Non, c'est nul.
C'est de la merde.
Mais quand même, Free Radical Design, c'est eux qui avaient fait le Time Splitters, quand même, non?
Ouais.
Tout à fait.
Absolument.
C'est un peu dommage. Et après, ils ont été rachetés. Enfin, c'est devenu Crytek UK, c'est ça?
Voilà, c'est devenu Crytek UK. Ils ont fait Time
Splitters. Ils ont fait de Crysis après.
Time Splitters, Time Splitters 2, Time Splitters Future Perfect et Haze, et après Haze ils ont été rachetés par
Crytek
UK.
Je sais que c'est Crytek UK qui s'occupait du multijoueur de Crysis 2.
Et c'est pas une grande réussite, c'est ça?
Non, si, il est excellent. Justement, il est excellent. S'il y a bien un FPS moderne au multijoueur qui change un petit peu des autres et qui est intéressant, c'est les deux derniers Crysis. Moi, j'aime beaucoup multi. C'est difficile, c'est nerveux, c'est original parce qu'il faut gérer avec la combinaison de qui permet d'être invisible, et genre de, enfin, ce genre de truc. Et franchement, c'est franchement bien branlé. Donc, ça veut dire qu'il continue quand même à faire du bon boulot indirectement.
D'accord, bah, ça fait plaisir de voir. Donc voilà, la prochaine fois que vous voyez le logo Rare sur un jeu, ce sera probablement un jeu Kinect
sur une tombe.
Ou sur une tombe, ouais, non, c'est vraiment fini.
Ouais, bah, à mon avis, il y a un moment où ils vont, même Microsoft va démonter le studio.
Je pense qu'ils vont finir par le revendre ou le renommer, ou ça deviendra Microsoft Games UK. Enfin, ils vont abandonner le nom Rareware parce que ça devient ridicule.
Ouais.
Aujourd'hui, le petit R que t'as en haut des jeux Kinect, c'est juste la honte, quoi.
Ah oui, carrément.
Je ne sais toujours pas ce qu'ils développent parce que là sur Xbox One ils n'en verraient rien du tout.
Bah ouais.
J'ai l'impression que le truc est en train de mourir tranquillement et que.
Mais pourtant je crois qu'ils ont ouvert une succursale il n'y a pas longtemps. Un deuxième studio et que je crois qui a été créé avant l'Xbox One. Mais je sais pas, on voit rien arriver. Hein.
On va pas grand chose arriver. Un peu.
Non, ouais.
Maintenant on s'en tape.
De toute façon, l'air, ça s'est arrêté avec Star Fox Adventure.
Alors, est-ce que ça s'est arrêté au milieu de Star Fox Adventure ou est-ce que dès que t'as mis la galette dans la console, c'était mort? Non, c'est juste pour savoir.
Non, je l'ai fini, Star Fox Adventure.
C'est de la merde. Okay.
Non, ça se joue.
C'est passionnant.
Bon, on avait la dalle sur cette console, donc. On aimait bien aussi ce genre de jeu, mais...
Ouais.
Bon.
En tout cas, Rareware, là, ils viennent de finir Kinect Sport Rivals, qui va sortir en avril.
Ah,
donc
ouais.
Après ça, j'imagine qu'ils vont travailler sur Kinect Sport Rivals 2.
après, ils vont faire Kinect Adventure 3.
3. C'est pauvre.
Complètement ouf.
Ouais.
Non mais ouais, je plains sincèrement les mecs qui sont restés chez Rareware.
Ouais, mais quand même, malgré la perte de licence de Banjo et de Perfect Dark qui sont partis dans le giron de Microsoft, bon, sur Donkey Kong, la relève, elle a été parfaitement assurée par Retro, heureusement.
Oui, il n'y a aucun problème.
Ah oui.
Il n'y a pas de doute là-dessus.
Je pense
que franchement, valait mieux effectivement vendre Rareware et acheter Retro que garder Rareware et...
Ouais.
D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez des débuts de Retro, parce que peut-être on peut y parler de Retro.
Vas-y.
Mais apparemment, au tout début, avant qu'ils sortent le moindre jeu, ils avaient plein de projets en simultané. Ils ont tous été annulés. Alors, au début, nous, on pensait tous que c'était des bras cassés, quoi. Et puis, ils ont sorti juste Metroid, quoi. Donc c'est
Metroid Prime.
Ouais.
D'ailleurs, est-ce que vous savez d'où viennent les gens de Retro Studio? Ça peut peut-être vous intéresser à titre de culture. On va continuer le petit instant culture avant de se quitter. Mais
allez,
là,
culture.
Petit instant culture. Les gens de Retro Studio, en fait, appartiennent quasiment tous. C'est-à-dire que c'est les membres fondateurs de Retro Studio, en fait, étaient membres d'un précédent studio à Austin, au Texas, qui s'appelle Iguana Entertainment. Je ne sais pas si vous connaissez Iguana Entertainment.
Ah, c'est moi aussi. Turok.
C'est exactement ça. C'est les mecs qui ont fait la série Turok.
Ah ouais, d'accord. Qui partait pas trop mal, mais qui était bof.
Bah, qui. Turok qui reste.
J'avais bien aimé
truc,
Turok 2, moi.
Turok 2, le multi était juste.
Le multi était génial. Oui.
Voilà,
oui.
Le multi, c'était. La tronçonneuse cérébrale est probablement l'arme.
Oui, tu nous avais expliqué ça
Moi, je disais que c'était l'aspirateur, un cerveau.
Ah, non, mais c'est la. C'est cérébral bore, donc techniquement, c'est la. La broyeuse cérébrale.
D'accord.
Ah, c'est bien ça.
Bon, eh ben on va se quitter sur ces bons mots, c'est la broyeuse cérébrale, ça fait quand même
pas mal.
Mais avant, la blablague.
Ah, une petite blablague.
La blablague.
Ouais, oh, j'en dis une au hasard. Bah, pas du tout préparé. Bon, quel est le point commun entre les brocolis et la sodomie?
C'est vert. Non, c'est
la sauce.
La sauce.
Et en fait, c'est que même avec du beurre, les enfants aiment pas ça.
C'est immonde.
C'est bon quand même.
Putain, c'est pas possible.
Non, ouais. Moi, j'aime pas ça.
Toi non plus.
Bon, je suis un grand enfant.
Ma gueule est maîtrise. Allez, à dans 2 semaines.
Salut.